Bonsoir à tous. L'ambassadeur français à Bamako fait ses valises, expulsé par le Mali. Tension exacerbée entre la France qui prend note et les militaires maliens au pouvoir. Des excuses qui n'ont pas convaincu la famille de Maëlys. Ouverture du procès de Norda Lelandais aujourd'hui à Grenoble. Nous y serons. Dans l'actualité encore, hors de question de démissionner, mais le Premier ministre britannique Boris Johnson fait son mea culpa encore pour les fêtes privées à Downing Street. Le scandale Orpea des familles s'organise pour une action collective. Et puis changer d'air, on y pense déjà, les réservations pour cet été explosent dans le sud de la France. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir on va essayer de voir si on y voit plus clair à gauche après la primaire populaire et maintenant que Christiane Taubira a donc commencé ses démarches vers les autres candidats de gauche. Pour l'instant les choses restent en l'état, mais est-ce qu'on peut vraiment renverser la table dans les trois semaines qui viennent? Vous nous direz si vous y croyez en dialoguant avec nos invités au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est donc une décision brutale. Dernier épisode d'échanges de plus en plus tendus entre la France et le Mali depuis le premier coup d'État qui a porté les militaires au pouvoir il y a un an et demi. L'ambassadeur de France à Bamako a 72 heures pour quitter le pays. Bonsoir Nathanaël Charbonnier.
Bonsoir, bonsoir à tous.
La junte militaire dit réagir aux récents propos des ministres des Affaires étrangères et de la Défense français.
Oui, Jean-Yves Le Drian, dont le journal du dimanche s'en est pris aux paramilitaires russes de l'organisation Wagner, accusé de piller le Mali en échange de la protection de la junte. Mais il n'y a pas que Jean-Yves Le Drian qui s'est exprimé. La ministre de la Défense, Florence Parly, sur France Inter, elle aussi a haussé la voix en évoquant la présence française au Mali. Elle répond au micro d'Éric Delvaux.
Aujourd'hui, le Mali est dirigé par une junte dont la légitimité est donc discutable. Et c'est une junte qui cherche manifestement à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. On ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix.
C'était samedi dernier. Autant de déclarations qui interviennent après toute une série de décisions de la junte au pouvoir, comme le refus d'organiser des élections cette année, comme elle s'y était engagée, comme le refus d'accueillir une centaine de soldats danois dans le cadre de l'opération européenne Takuba. En résumé, non seulement le torchon brûle entre les deux pays, mais ce qui semble le plus vraisemblable, c'est que les Maliens ne veulent plus de la France, qu'ils cherchent le point de non-retour, car ils estiment avoir un plan B qui répond au nom de Russie. L'expulsion de notre ambassadeur s'inscrit dans cette logique, à n'en pas douter, une partie de poker est en train de se jouer entre les deux pays.
Alors on entend bien que la question du retrait des troupes françaises se pose sur place. Quel avenir pour Barkhane Nathanaël en Mali ?
C'est un peu un avenir bouché. Il faut savoir, il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron, le président français, a annoncé l'année dernière la diminution des effectifs de Barkhane au Mali. À l'arrivée, ce n'est pas dit que Barkhane reste, tellement la situation devient tendue. Il ne faut pas oublier que 53 soldats sont morts au Mali. Le dernier, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Et que cela devient impossible de justifier auprès de l'opinion publique française une présence dans un pays qui ne veut plus de nous et où nos militaires meurent. Notre plan B à nous, français, c'est d'aller plutôt au Niger, où la France peut encore compter sur le pouvoir pour se replier. Car enfin, il y a un autre problème, c'est le Burkina Faso. Ce qui se passe au Mali risque d'arriver au Burkina Faso, qui lui aussi vient de vivre son coup d'État et qui semble copier son voisin malien avec toujours quelques mois de retard.
La situation au Sahel et l'influence des mercenaires russes du groupe Wagner, vous en parliez Nathanaël. Et en Ukraine, à quel jeu joue la Russie? Accusée depuis des semaines de positionner des troupes à la frontière, elle pointe en retour le renforcement de l'OTAN qu'elle juge menaçant. Les diplomates se voient, les présidents s'appellent, le ton monte puis redescend. Aujourd'hui encore devant le Conseil de sécurité de l'ONU, les Occidentaux font front commun. Réunion publique pour mieux mettre la pression. Loïc Loury est à New York.
Les États-Unis tentent de créer l'hystérie, affirme Vassili Nebenzia. D'entrée de jeu, le représentant russe attaque et dénonce la propagande occidentale à propos de la situation à la frontière ukrainienne. Son homologue américaine, Linda Thomas Greenfield lui répond. Selon nos collègues russes, nous aurions réclamé cette réunion pour que tout le monde soit mal à l'aise. Imaginez à quel point vous seriez mal à l'aise si 100 000 soldats étaient déployés à votre frontière. Un bras de fer dans lequel les Russes aujourd'hui apparaissent isolés. La réunion se poursuit grâce au vote de 10 des 15 pays présents. Le Royaume-Uni se joint aux critiques contre Moscou avant la France par la voix de Nicolas de Rivière.
Toute nouvelle atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine aura des conséquences massives et un coût sévère.
Côté russe, les soutiens, notamment chinois, sont timides. Nous ne comprenons pas ce dont nous parlons, assure le représentant russe. La pression s'accroît sur Moscou, même si la voie du dialogue reste ouverte, dit Washington. Les chefs de la diplomatie russe et américaine doivent d'ailleurs se parler demain par téléphone. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et à 19h presque 6, le procès de Norda Lelandais s'est donc ouvert aujourd'hui à Grenoble.
Avec les sanglots étouffés de l'accusé, il a bien donné la mort à la jeune Maëlys il y a un peu plus de 4 ans après une soirée de mariage. Il ne voulait pas, il s'excuse, il s'expliquera, promet-il, sans vraiment convaincre la famille de la petite fille qui avait un grand portrait en peinture de l'enfant. Aujourd'hui au tribunal, l'avocat du père de Maëlys, maître Laurent Boguet.
Il s'excuse, eh bien il faudra voir effectivement ce que la famille décide d'en faire, mais j'ai cru comprendre qu'elle était un peu courroucée par la manœuvre, qu'elle juge peut-être un peu tardive et sans doute pas suffisamment investie, et puis au-delà, qu'il veuille s'expliquer, je l'appelle tout à fait de mes voeux, parce que je crois qu'il y a effectivement d'importantes zones d'ombre qui sont la résultante de ces prises de position, et que si aujourd'hui il est décidé à nous en parler, eh bien sa parole sera la bienvenue.
C'est ce qu'attend la famille ?
Bien sûr que la famille attend, parce que quand vous êtes effectivement, je dirais, dans la détresse, vous entendez que celui qui prétend honorer la mémoire de l'une de ses victimes vienne assumer dans leur intégralité les faits qui lui sont reprochés. Mais au-delà, la famille, elle vient obtenir justice, sans haine, sans vindicte particulière, mais elle entend effectivement que le préjudice immense qui lui a été causé fasse l'objet d'une réparation par voie judiciaire.
Maître Laurent Boguet avec Mathilde Vincenot. Le procès va durer 3 semaines. Norda Lelandais a déjà été condamné à 20 ans de réclusion pour avoir tué le caporal Arthur Noyer. C'est l'un des hommes de l'ombre d'Éric Zemmour, celui qui organise les événements, rassemblements, meetings. Olivier Hubeda est visé par une enquête ouverte pour viol après une plainte déposée en décembre par un jeune majeur de 18 ans, ancien stagiaire. Le conseiller conteste ces accusations et parle d'un coup monté. Gagnante de la primaire populaire, mais avec quel programme ? Christiane Taubira a donc terminé en tête du scrutin qui a réuni plus de 390 000 votants devant Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Anne Hidalgo, cinquième derrière Pierre Laroutourou. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Mais on sait peu de choses finalement de ce que l'ancienne ministre de la Justice propose.
Oui, elle ne met en avant que quelques mesures phares. Le rétablissement de l'ISF avec un prélèvement d'1% à partir de 10 millions d'euros de patrimoine. Une revalorisation du SMIC à 1400 euros par mois. Un revenu étudiant de 800 euros par mois pendant 5 ans, et un référendum sur le nucléaire. Voilà les principales propositions. Pour le reste, c'est du côté de la primaire populaire qu'il faut aller fouiller, parce qu'en acceptant le soutien du mouvement citoyen, Christiane Taubira en accepte aussi les règles et les propositions élaborées ces derniers mois par les militants en lien avec les grands partis de gauche. Là, les idées ne manquent pas. Une loi de transition alimentaire pour aller vers l'agriculture écologique, une grande loi climat avec relance verte de l'économie, la garantie d'un minimum gratuit d'eau, de gaz et d'électricité pour chaque foyer, la réduction du temps de travail. Et puis il y a aussi dans ce programme des réformes plus structurelles, création d'une 6e République, le droit de vote à 16 ans. L'équipe de Christiane Taubira promet de nouvelles annonces au fil des déplacements. Il y en aura demain dans la Drôme pour parler d'industrie.
Antoine Gignot, écho de campagne encore. Anne Hidalgo, malgré sa 5e place à la primaire populaire, voit une partie de l'équipe de campagne d'Arnaud Montebourg la rejoindre aujourd'hui. Déclaration commune de 12 membres de l'équipe, dont l'ancien directeur de cabinet, sans que l'ex-candidat en revanche, ne se joignent à ce ralliement.
Le rapport très attendu sur les fêtes privées à Downing Street n'épargne pas le Premier ministre Boris Johnson.
Le cabinet du Premier ministre britannique n'a pas été à la hauteur aux yeux de Sue Gray, la fonctionnaire qui a mené l'enquête interne, réputée pour son intransigeance. Elle condamne le comportement de certains membres du gouvernement qu'elle juge difficile à justifier. Richard Place est à Londres.
Des rassemblements qui n'auraient pas dû avoir lieu ou se dérouler de cette manière, de graves manquements et enfin une absence de leadership dans ces bureaux. Rappelons que l'on parle ici de ministère et du 10 Downing Street. Sue Gray n'a pas pu révéler de détails, mais sa plume est acérée. Boris Johnson commence par la remercier pour son travail, puis il enchaîne.
Premièrement, je veux dire...
Sorry.
Je m'excuse pour ce que l'on n'a pas fait correctement et aussi pour la manière dont nous avons géré tout ça. J'ai compris et je vais réparer.
Il va réorganiser son cabinet. Pas suffisant pour l'opposition qui demande sa démission. Cet homme n'a jamais honte, cingle Keir Starmer, le leader travailliste. Comme souvent, le coup le plus dur vient du propre camp de Boris Johnson. Theresa May, l'ancienne première ministre, lui pose une question.
Soit mon honorable ami n'a pas lu ou pas compris les règles, soit il pensait que ça ne s'appliquait pas à son équipe. Quelle est la réponse ?
Une nouvelle fois, l'ambiance est électrique, mais c'est dans les rangs conservateurs et dans les discussions qui seront tenues à l'écart que va se nouer l'avenir de Boris Johnson. Lui, en tout cas, est bien décidé à rester. Londres, Richard Place, France Inter.
L'épidémie de Covid en France, mercredi, le masque ne sera plus obligatoire dehors, le télétravail moins massif, et puis avec une baisse de 10% du nombre de nouvelles contaminations en moyenne sur les 5 derniers jours, et un taux d'incidence qui fléchit, on semble passer le pic de la vague Omicron. La publication du livre-enquête sur le groupe Orpea a pour certains eu l'effet d'un électrochoc. Une action collective est en train de voir le jour, rassemblant plusieurs familles. William Delesseux a rencontré l'une d'entre elles.
Depuis 3 ans et la mort de sa mère de 92 ans, Sophie Maillard se pose la même question. Que s'est-il passé à la résidence Orpea des Chanterelles au Pré-Saint-Gervais ?
Ces gens-là ont laissé ma maman plus de 24 heures avec les deux jambes cassées, dans des souffrances ignobles, sachant qu'on nous avait vendu, entre guillemets, cette maison de retraite comme médicalisée avec un médecin présent en permanence et qui était accolé à une clinique avec un accès direct à la clinique. Rien n'avait été vu que par un aide-soignant.
Sa mère est admise ensuite à l'hôpital pour cette double fracture.
L'hôpital Saint-Antoine a dit qu'il y avait suspicion de maltraitance et donc qu'après le choc subi, malheureusement, son espérance de vie n'allait pas dépasser 6 mois. Et nous l'avons donc repris à la maison où elle est décédée 3 mois plus tard.
Sophie Maillard se résigne à l'époque. Elle ne portera pas plainte face aux intimidations de la direction de la résidence qui lui explique que sa mère est tombée du lit dans la nuit.
Ça a été l'électrochoc en fait, ce livre. Et de se dire, ben non, on n'est pas les seuls dans cette situation. Il y a d'autres gens qui souffrent. Et il faut absolument dénoncer ça parce que nos aînés, c'est nous aussi, nous demain. Tous les plaignants vont déposer plainte le même jour contre Orpea.
Des plaintes qui seront déposées au mois de mars. Sophie Maillard espère ainsi avoir la vérité sur ce qui a précipité la mort de sa mère.
Reportage William Delesseux, ce n'est pas le directeur général. Yves Leman, en poste depuis plus de 10 ans, est dans le groupe depuis près de 30, qui fera face à la ministre demain matin pour rendre des comptes sur la gestion du groupe Orpea. Puisqu'il vient d'être limogé, ce sera donc Philippe Charrier, promu PDG, accompagné du directeur France Jean-Christophe Romerzi. Reconnaîtront-ils le système que dénonce le livre, la course aux marges, à la rentabilité, au détriment de l'accompagnement? La ministre chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, sera sur Inter à 7h50 demain matin, juste avant de les recevoir. Un plan d'urgence pour la filière porcine. Hausse des matières premières, baisse du cours du porc depuis un an. Le secteur subit une crise inédite. Bonsoir Kathleen Comte.
Bonsoir.
Et le ministère de l'Agriculture fait donc un geste ce soir, 270 millions d'euros.
Le ministre de l'Agriculture a dévoilé son plan d'action pour aider la filière porcine. 270 millions d'euros versés en 3 fois. 75 millions d'euros d'abord dans les 2-3 prochaines semaines pour aider les éleveurs les plus touchés par la crise. Puis 175 millions d'euros à partir de fin avril, début mai. Enfin 20 millions d'euros dans un troisième temps. Pour le président de la Fédération Nationale Porcine, François Valli, cette aide est insuffisante mais nécessaire.
Cette aide n'est pas suffisante à 100%, mais c'est un premier pas, c'est une première enveloppe qui est quand même certes importante, mais qui ne suffira malheureusement pas au niveau de la situation à arriver à le fait que tous les éleveurs arrivent à 0 € de dette.
Une aide qui ne concernera pas tous les éleveurs de la même manière.
Ce n'est pas tous les éleveurs porcins à 100% qui auront droit à cette aide. L'objectif quand même, c'est bien avec cette aide, c'est de maintenir la production porcine demain pour qu'il y ait un maximum d'éleveurs qui soient là encore demain. Les cibles, on va dire, seront principalement les jeunes investisseurs et les jeunes agriculteurs, mais aussi d'autres personnes, bien sûr, pas que. Mais il y aura cette cible-là, il y a du cas par cas, et tant mieux, il y a des éleveurs de certains de mes collègues qu'on a moins besoin que d'autres pour différentes situations.
Aujourd'hui, les éleveurs touchent 1,40 € par kilo de porc vendu. Il faudrait qu'ils puissent le vendre 1,80 €, mais le contexte n'est pas favorable. favorable. Les charges augmentent tandis que la demande baisse. Le gouvernement estime que sans aide, 30% des exploitations porcines françaises pourraient disparaître dans un peu moins de 2 ans.
Kathleen Comte en direct du ministère de l'Agriculture avec Fabien Gosset. On ne va pas tarder à voir un litre à 2 euros dans un certain nombre de stations essence. Les prix des carburants ont continué à augmenter la semaine dernière en hausse d'un centime et demi pour le gazole, 1,67 € en moyenne et 2 centimes de plus pour le sans-plomb. Et puis va s'ajouter la hausse des péages demain. Ils augmenteront d'environ 2% en moyenne. On apprend aussi ce soir la mort d'un capitaine d'industrie, l'ancien patron Pierre Bellon qui a fondé en 1966 à Marseille la Sodexo, le groupe de restauration collective. Il avait 92 ans.
Il y a presque 3 ans, Hélène, plus de 400 tonnes de plomb avaient fondu dans l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris.
Et ça avait suscité beaucoup d'inquiétudes car il avait fallu nettoyer les poussières incrustées, décontaminer les écoles alentour. On avait presque oublié qu'on allait s'en resservir du plomb. On reconstruit la cathédrale à l'identique et donc avec du plomb pour la toiture et pour la flèche. Les associations s'inquiètent des risques pour la santé. Il y a quelques jours, le directeur de l'établissement public était reçu par le comité plomb de la mairie de Paris. Rémi Brancato, bonsoir.
Bonsoir.
Certains élus de la majorité demandent même aujourd'hui qu'on change de matériaux.
Oui, parce que la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, la CNPA, a validé la réutilisation du plomb. Mais Anne Souiris, l'adjointe écologiste en charge de la santé publique à la maire de Paris, regrette qu'on n'ait pas réfléchi auparavant à une alternative, le cuivre par exemple.
Quand on a eu 400 tonnes de plomb qui ont disparu en fumée et qu'on a vu les problèmes que ça posait, eh bien, il aurait été important, au vu de la toxicité du plomb, même à un moindre degré, d'essayer de voir une alternative. Quand il y a du vent, qu'il pleut, je ne sais pas comment on va pouvoir faire en sorte que ces eaux, elles dégoulinent bien sagement dans le filtre. Moi, je ne vois pas.
Car c'est l'un des risques, ces eaux de pluie qui vont ruisseler sur le toit. L'établissement public a commandé une étude pour en mesurer l'éventuelle pollution. Un résultat attendu cet été avec peut-être ensuite l'ajout d'un filtre à eau. Mais Philippe Jost, le directeur général délégué de l'établissement public, refuse d'utiliser un autre matériau. À Paris, le plomb recouvre déjà le Louvre ou encore le Dôme des Invalides.
Nous resterons Notre-Dame de Paris pour au moins 800 ans. Il nous faut à la fois un matériau malléable, extrêmement durable, très lourd et une teinte grise qui s'accorde au paysage parisien. Les bords de Seine sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La réunion de ces 4 contraintes conduit inéluctablement au plomb.
D'autant que le risque le plus important reste le feu et l'établissement public promet un système renforcé de prévention incendie.
Rémi Brancato, plus de 5 mois après les incendies de l'été dernier dans l'Aude, un suspect a été interpellé aujourd'hui, soupçonné par la gendarmerie d'être à l'origine de 4 feux qui avaient ravagé plus de 7000 hectares de végétation. L'homme interpellé a déjà été condamné pour des faits similaires. Le sud de la France qui est par ailleurs pris d'assaut d'ores et déjà pour les prochaines vacances d'été. Le nombre de réservations est en hausse de 20% en moyenne par rapport à janvier 2021. Sophie Glotin, ça concerne tous les secteurs, camping, hôtel, location saisonnière.
Et certains campings du Var affichent déjà des taux de réservation à 40% pour juillet, 60% même pour le mois d'août. Des chiffres aussi en hausse pour la plateforme de location saisonnière Bellevilla.
On a aujourd'hui sur la région plus de 21% de réservations que l'année dernière le même jour. Et on n'est qu'au mois de janvier. Clairement, c'est du jamais vu.
Et ça ne fait pas les affaires de Marie Chantal. Cette habitante de l'ouest de la France voulait, comme tous les ans, louer une maison au Lavandou. Elle a appelé le propriétaire il y a quelques jours, mais c'était déjà trop tard.
C'est complet. Alors pour nous, ça a été une grande surprise. Nous ne pensions pas du tout que ça allait être pris jusqu'au moins la 3e semaine d'août.
Cette précipitation n'étonne pas Aurore Laroche, directrice du camping Estérel Caravaning à Saint-Raphaël.
C'est vrai que les Français se disent, bon ben voilà, cette année encore, nous risquons de ne pas pouvoir partir à l'étranger. Eh bien, réservons le plus rapidement possible pour éviter d'être face à des établissements complets. Nous avons été complets l'année dernière assez rapidement, au mois de mai.
Autre constat, les familles avec enfants semblent les plus pressés à réserver pour l'été dans le Var, des familles françaises, mais aussi belges, hollandaises et allemandes.
Sophie Glotin, France Bleu Provence, vivement la chaleur de l'été. À Marseille aujourd'hui, c'est plutôt gros coup de vent. La mairie a décidé de fermer parcs, jardins et cimetières au moins jusqu'à mercredi et appelle les Marseillais à la prudence en bord de mer.
Et on y vient tout de suite avec la météo, ce sera dans tout petit instant. Je vous rappelle quand même le thème du téléphone sonne. Merci beaucoup. Merci. Hélène Philly, à demain. La gauche est maintenant, après la victoire annoncée de Christiane Taubira, vos questions par le chemin habituel, le 01 45 24 7000. Allez, l'œil sur le ciel.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et le dit Calac, encore beaucoup de vent donc sur le sud-est.
Oui, sur la région méditerranéenne, le vent reste violent en première partie de soirée, jusqu'à 100 à 120 km à l'heure et même 110 à 130 sur le Var, où la vigilance orange reste de mise. Ça va faiblir cette nuit. Demain, le sud-est et les crêtes des Pyrénées et des Alpes devront encore composer avec le vent, 90 à 110 km à l'heure toute la journée, avec du soleil. Et puis ailleurs, les nuages seront très nombreux. On trouvera des éclaircies au sud de la Loire le matin, mais ça ne durera pas. Entre le nord de la Seine, la région parisienne, l'Alsace et le Jura, de petites pluies circuleront. Un peu de neige sur le nord-est jusqu'en plaine le matin. La neige remontera progressivement l'après-midi au-dessus de 300-400 mètres. Et puis sur le massif central, un peu de neige aussi. Un peu de pluie verglaçante possible, prudence. Et du vent toujours sur les côtes de la Manche jusqu'à 60 km à l'heure.
Avec quelques gelées le matin aussi.
Sur le sud-ouest et dans l'est, de petites gelées. Et puis l'après-midi, 4 degrés à Metz et à Lyon, 9 à Paris, à Toulouse, 11 à Lille, Bordeaux et Marseille, 12 à Brest, 14 à Montpellier et 17 à Ajaccio.
Et le Calac de Météo France, merci.